Et sans surprise, cette semaine avec Daniel Haber, on va parler et revenir sur les conséquences de la frappe israélienne à Doha, au Qatar, une frappe qui visait les dirigeants du Hamas. Voici ce que Daniel Haber en pense et son analyse au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, cette semaine, il y a eu cette frappe israélienne à Doha sur le Qatar pour viser des dirigeants du Hamas. Alors pour commencer Daniel, analysons géopolitiquement cette attaque sur le Qatar. On a entendu beaucoup de gens qui se sont indignés de cette frappe, dont le président français Emmanuel Macron. Est-ce que ça a rabattu les cartes dans la géopolitique mondiale ?
Ah oui, c'est un événement géopolitique majeur. Alors, elle a surpris, comme d'habitude, le monde parce que c'est une entreprise, une audace militaire fondée sur un renseignement tout à fait exceptionnel. Donc, ça, c'est dans la foulée de toutes les grandes réussites d'Israël pendant ces deux dernières années. Mais elle a surtout surpris parce qu'elle a touché un pays qu'on pensait justement intouchable. Intouchable parce que protégé par les Américains, vous savez que à Doha, enfin près de Doha, il y a la plus grande base américaine du Moyen-Orient, celle qui d'ailleurs abrite ce qu'on appelle le CENTCOM, le commandement central de toute l'armée américaine, c'est-à-dire qui organise la défense de toute la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale. C'est énorme, c'est énorme. Elle a évidemment des liens très très étroits avec les Européens. Vous mentionniez Macron, c'est vrai que les Qataris ont acheté la bonne volonté des Européens en investissant alors dans les clubs sportifs, dans l'immobilier, mais dans beaucoup d'investissements inconnus, des centres de recherche, etc. Et donc l'influence du Qatar en Europe n'est pas négligeable, même si elle n'est pas perçue. Mais alors, pour essayer de répondre à votre question sur en quoi c'est un événement politique majeur, c'est géopolitique majeur, c'est parce qu'en fait, au fond, depuis le 7 octobre, il faut revenir au 7 octobre, depuis le 7 octobre, la stratégie géopolitique d'Israël, c'est de faire tomber les masques, de dire les choses telles qu'elles sont et de d'effacer tout ce qui est hypocrisie, double jeu, ambivalence, qui est évidemment le caractéristique de tous les pays du Moyen-Orient. Alors la Turquie est un modèle d'ambiguïté et d'hypocrisie, mais le Qatar dépasse tout le monde. Et donc le premier masque qui est tombé, c'est le Hamas. Le Hamas a cessé d'être un interlocuteur valable et pour Israël et pour le reste du monde. Jusque 7 octobre, on parlait avec le Hamas, on négociait avec le Hamas, on a même négocié avec le Hamas après le 7 octobre, à deux reprises, pour libérer des otages. Je rappelle quand même qu'on a libéré 80% des otages à la suite de deux négociations, où le Qatar avait joué d'ailleurs un rôle non négligeable. Mais il a cessé d'être un interlocuteur parce que depuis la dernière négociation, le dernier cessez-le-feu qui avait lieu le 19 juin, vous savez, la veille de l'intronisation de Trump, Israël a pris la position de briser cet accord au début du mois de mars. On voit le résultat aujourd'hui, hein, Israël est installé à Gaza pour détruire le Hamas, parce que on a compris que les otages aujourd'hui pour le Hamas n'avaient qu'une seule objectif, c'est permettre au Hamas de rester à Gaza. Et ça, c'est le seul objectif que Israël ne peut accepter. Et d'ailleurs, on voit que à l'Assemblée générale, dans les motions franco-saoudiennes, on dit le Hamas doit être désarmé. Sauf que eux, ils disent pas comment. Et le seul qui soit capable de le désarmer, c'est Israël. Et donc, Israël fait le sale boulot pour tout le monde, y compris pour les Français, y compris pour les Saoudiens. Donc, ce premier masque est tombé. Le deuxième masque qui est tombé, c'est l'Iran. On a compris que le 7 octobre, c'était évidemment le Hamas qui a attaqué, mais qu'en fait, c'était une déclaration de guerre de l'Iran à Israël et à l'Occident. Et la réponse a été la guerre des 12 jours où l'Occident, c'est-à-dire Israël et les États-Unis, ont détruit trois sites nucléaires iraniens. Et le troisième masque qui vient de tomber aujourd'hui, enfin le 9 septembre, avec cette attaque sur le Hamas pour dire « c'est fini ». De votre hypocrisie, il faut que vous choisissiez votre camp. Et il faut rappeler à ce propos que le Qatar est le grand financier de l'islamisme mondial, des frères musulmans De tout ce que le djihadiste compte dans le monde, ils vont à Qatar pour toucher de l'argent. Donc le Qatar finance le djihadisme mondial, l'islamisme mondial, et puis il finance tout un tas d'institutions aux États-Unis, les universités, les centres de recherche, et en Europe, à travers ce que je viens de vous dire. Et donc l'influence du Qatar en Occident est une influence délétère, néfaste. Elle donne de l'influence, elle qui est à la source du wokisme aux États-Unis et probablement de tous les mouvements islamo-gauchistes qui ont lieu en Europe. Donc c'est un danger mortel pour l'Occident et il était temps que quelqu'un le dise, ça a été Israël.
Alors, on entend beaucoup de, notamment de sécuritaires israéliens qui parlent de cette opération à Doha comme un échec. Quels en sont les résultats concrets, Daniel?
Bon, on ne sait pas exactement qui est mort, et je suis pas sûr qu'on puisse éliminer de toute façon toute une direction, etc. Je crois, mais que le message, lui, était très clair. Le Qatar ne peut plus être le médiateur dans les négociations avec le Hamas, tout simplement parce que c'est pas un médiateur neutre. Le Qatar fait tout pour aider le Hamas à obtenir l'ultime objectif du Hamas, c'est de rester à Gaza. Et toutes les négociations qu'on peut qualifier de négociations bidons qui ont lieu grâce au Qatar débouchent toujours sur des propositions qu'Israël ne peut pas accepter, puisque et Israël et le monde entier veulent se débarrasser du Hamas. Et le Qatar fait tout pour le protéger. Donc, si vous voulez, le résultat matériel, militaire, bon, il peut être en question, mais le résultat géopolitique, il est clair. Le Qatar, aujourd'hui, est mis devant ses propres contradictions. Et il va falloir qu'il choisisse aussi son camp, ce qu'il ne veut pas faire. Et donc, le message d'Israël était très fort et va perturber beaucoup la suite des opérations et de la vie du Qatar.
Alors, pour conclure, quelles vont être les conséquences de cette action?
Écoutez, il y a deux conséquences majeures du point de vue d'Israël qui sont importantes. C'est la réaction américaine et la réaction de ceux qui ont signé les accords d'Abraham, c'est-à-dire les États arabes unis et Bahreïn, et aussi la réaction, je dirais même et surtout, la réaction de l'Arabie saoudite qui, lui, doit rejoindre un jour les accords d'Abraham. Alors pour Trump, on voit bien qu'il est tout à fait d'accord avec Israël. Il a parfaitement compris ça. Les Américains sont parfaitement informés de ce que c'est vraiment le Qatar. Mais il peut pas vraiment, pour tout un tas de raisons, d'abord domestiques, vis-à-vis du MAGA, de sa base, etc., et vis-à-vis de sa recherche de prix Nobel de la paix. Donc il va falloir trouver des paroles apaisantes pour le Qatar et pour la Arabie Saoudite. Il peut même être amené à faire des critiques d'Israël, mais en réalité, il reste derrière Israël. Et donc, tout simplement parce que, bien sûr, s'il y a cette base américaine, les Américains en ont besoin, mais le Qatar aussi en a besoin, parce que c'est une protection du Qatar, qui est désarmé. Donc, le Qatar est très riche, mais le seul qui le protège aujourd'hui sont les Américains. Donc, je pense qu'avec Trump, on va bien s'en sortir. Le vrai problème, c'est les pays du Golfe. Alors, on a déjà vu que les États arabes unis et le grand ami d'Israël, en fait, puisqu'il a signé l'accord d'Abraham, a hurlé immédiatement, s'est précipité à Doha pour le soutenir. Mais il faut rappeler que en 2014 et en 2019, à deux reprises, les pays du Golfe, comme les États arabes unis et l'Arabie saoudite, s'en sont pris au Qatar, ont rompu les relations diplomatiques avec le Qatar et l'ont isolé, parce que le Qatar est le soutien des mouvements islamistes mondiaux, notamment des frères musulmans, qui sont les ennemis objectifs et des États arabes unis et des monarchies, toutes les monarchies du Golfe, y compris l'Arabie saoudite. Alors, la réunion qui a lieu aujourd'hui, lundi, à Doha, où il y aura tous les pays du Golfe, plus évidemment l'inévitable Erdogan, qui veut mettre son grain de sel partout et pour montrer qu'il existe. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça terminera par une condamnation de l'action d'Israël? Évidemment, ils ne peuvent pas faire autrement, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs opinions publiques, C'est très important, on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici. Le vrai critère, ça sera, y aura-t-il rupture des accords d'Abraham par les États arabes unis, qui serait demandé par l'Arabie saoudite à son ami califat. Je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que les accords d'Abraham sont solides, mais ce sera vraiment le juge de paix, donc ce sera notre prochaine conversation qu'on pourra faire cette analyse.
On aura évidemment l'occasion d'en parler dans nos prochaines conversations, comme vous l'avez rappelé. Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce lundi matin et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.